Napoléon est mort à Sainte-Hélène. Son fils Léon lui a crevé le bidon. On l'a retrouvé assis sur une baleine en train de bouffer les fils de son caleçon. Le petit tondu a fini par enfourrer partout. Des indiques, des espions, des mouchards. Personne n'y échappait. C'est devenu le régime de la police.
Arrivé au pouvoir, Bonaparte fut la cible de nombreux complots. Royalistes ou jacobins, les uns et les autres voulaient sa peau et renverser le régime. À l'affût des attentats fomentés contre lui, le premier consul s'appuya entre autres sur un homme pour le moins complexe.
Joseph Fouché, duc d'Otrante.
Ministre de la police, sous le directoire, le consulat et l'empire, Fouché avait une définition très précise de sa mission.
Personne ne saura jamais s'il est en règle, car la règle sera équivoque. Équivoque, mais redoutable. C'est ainsi que je veux la police. Indéfinie, protéiforme, invisible et toute puissante. Elle sera dans chaque conscience. Alors là, monsieur, ce sera l'ordre.
Confiée à Fouché, la police napoléonienne a mis au point les indiques, les écoutes et les filatures sans hésiter à recruter des profils douteux.
Eugène François Vidocq, voyou repenti.
Le flic véreux dont on a besoin pour surveiller les bas-fonds. Obsédé par le contrôle de la société impériale et soucieux de contrecarrer ses ennemis politiques, Napoléon aurait-il jeté les bases de l'État policier? Ou alors, est-ce qu'au nom des acquis de la Révolution, il fallait protéger coûte que coûte le peuple français des conspirations royalistes? Quoi qu'il en fût, c'est l'enjeu récurrent pour tout gouvernement et Napoléon n'y échappe pas. On juge un régime à la limite qu'il fixe à son pouvoir de police. Une question complexe si on prend en compte le contexte de l'époque.
Napoléon, l'homme qui ne meurt jamais.
Une série en 9 épisodes sur les traces de l'empereur.
Chapitre 6, le super flic.
Je vous en prie, asseyez-vous et donnez-moi des nouvelles de Paris.
Qu'est-ce que vous voudriez savoir, madame ?
Les crimes, mon cher Henri. Rien ne plaît tant à ces dames que le crime. Je vous écoute.
Ce sixième épisode débute à Paris, le 20 juillet 1799. Ce jour-là, Joseph Fouché prend ses fonctions de ministre de la police.
Fouché ?
Il a été nommé par Barras et le directoire. Bonaparte, lui, est toujours en Égypte quand Fouché arrive à la tête de son ministère dans le palais de la duchesse Mazarin, à l'emplacement actuel de l'école des Beaux-Arts. Le soleil se couche sur Paris et Joseph Fouché se remémore son passé récent.
La foule qui hurle, qui injurie, qui insulte, qui réclame des têtes. Des têtes et des chaussures. Pour Marie-Antoinette, c'était leur obsession. Ils réclamaient tous ses souliers. Ils exécutent une reine et ils pensent à leurs pieds. C'est une grave erreur de confondre le peuple et la foule. Le peuple, lui, est souverain. C'est le plus grand legs de notre révolution. Mais la foule est une bête féroce qu'il faut nourrir, manipuler, dominer. J'ai vu des dizaines de têtes rouler au sol depuis cette terrasse. Royalistes, orléanistes, jacobins, girondins, les cris du public étaient les mêmes. Personne ne réclamait la grâce. Tous voulaient du sang.
Depuis 1792, date de son élection en tant que député de Nantes, Joseph Fouché a su naviguer dans les eaux troubles de la Révolution. Peut-être un atavisme familial.
Fouché est le petit-fils d'un calfat de marine de la région de Nantes, analphabète.
L'historien Emmanuel de Varesquiel.
Il est le fils, et c'est le début de la toute petite ascension sociale de cette famille Fouché de Nantes. Il est le fils d'un capitaine de navire négrier. C'est-à-dire qu'il pratiquait ce qu'on appelait le commerce, le bois d'ébène ou le commerce triangulaire de Nantes au golfe de Guinée et du golfe de Guinée aux Antilles et en particulier Saint-Domingue et la Guyane. Et Fouché, étant donné son état de santé, il est pulmonaire, il a la tuberculose, hein, va être destiné à l'enseignement. Et dans une congrégation enseignante qui est la plus importante en France à la veille de la Révolution française, qui est la congrégation de l'Oratoire, qui a été créée par Bérulle, le cardinal de Bérulle, à l'époque du cardinal de Richelieu, sous Louis XIII et Louis XIV. Et il va faire ses armes comme enseignant la physique et les mathématiques en particulier. Donc ça suppose déjà un état d'esprit qui tourne autour de l'examen de conscience personnelle, du secret, et aussi d'une forme de solitude, hein. Ce qui est assez intéressant, parce que je suis absolument persuadé que ces années enseignantes, de 1780 à 1791, l'ont littéralement façonné et formé, ont formé un caractère. Ce caractère du secret qui s'explique aussi par le fait qu'il perd son père, qui va mourir au cours de l'une de ses navigations vers Saint-Domingue alors qu'il est jeune, qu'il va perdre la plupart de ses frères et sœurs, qu'il entretient des relations probablement très fusionnelles avec sa mère, et qu'au fond, son enfance et son adolescence sont des enfances et une adolescence solitaire, qui ressemble presque à un combat contre lui-même, à commencer par un combat contre sa laideur. Il est extrêmement laid et contre sa maladie.
Il se montra un adolescent fluet, mince et anémique. Il manquait visiblement de toute aptitude à un métier héroïque ou dur.
Au fond, il faut toujours essayer de regarder les personnages sur lesquels on travaille à travers, si j'ose dire, le petit bout de la lorgnette. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait par rapport à la maladie ? Soit on s'abandonne au dolorisme et on s'abandonne à la maladie, soit on la combat. Et c'est exactement ce qu'a fait Fouché par rapport à sa tuberculose. C'est une espèce de lutte contre lui-même. Au fond, cet homme ne s'aime pas, et partant, il n'aimera pas les autres. Ça, c'est le Fouché de l'adolescence à Nantes et des collèges de l'Oratoire, où il va enseigner, en particulier au collège de Juilly, qui est le plus célèbre, puis à Arras, à partir de 1788, où il rencontre un personnage qui va énormément compter dans sa vie, qui est Maximilien de Robespierre, qui est avocat au Conseil d'Arras. Fouché va être élu député de Nantes à la Convention nationale, il vote la mort du roi.
Je meurs, innocent de tous les crimes dont on m'accuse.
Il est régicide,
et il est envoyé en mission pour mater l'une des nombreuses révoltes qui bousculent cette toute jeune république qui a été proclamée le 21 septembre 1792. Il est envoyé en mission à Lyon et il va pratiquer littéralement une politique de la table rase et de la révolution totale à Lyon. Ce sont les fameuses mitraillades de Lyon, les 4 et 5 décembre 1792. Fouché a du sang sur les mains. Il a 2000 victimes, plus de 2000 victimes lyonnaises sur les mains au cours de sa mission lyonnaise, où il est un véritable proconsul, où il organise tout le régime révolutionnaire à Lyon entre novembre 93 et avril 94. Et à cette occasion, il met en place un certain nombre d'institutions révolutionnaires, dont une commission provisoire de surveillance qui est son bras armé policier à Lyon. Donc il commence à pratiquer l'exercice de la police. Donc grâce à Barras, lorsqu'il parvient au ministère de la police en 1799, en effet quelques mois avant le coup d'état de Brumaire et l'avènement de Bonaparte, il a déjà un tempérament d'une part et une véritable connaissance pour l'avoir pratiqué comme révolutionnaire et comme proconsul de la police et du système policier.
La police, un instrument remarquable. À sa tête, un homme dont tout le monde a encore peur. Joseph Fouché.
Fouché ?
Voyez ce petit instrument. Il a été tenu dans la main de Fouché. C'est son cachet. Il a authentifié la mort de 64 jeunes gens lyonnais, le 14 frimaire en deux, dans la plaine des Brotteaux, qui sont morts sous la mitraille en chantant le chant du départ.
En novembre 1799, Fouché a 40 ans. Il est ministre de la police depuis 3 mois quand, soudain, Bonaparte rentre glorieux de sa campagne d'Égypte.
Bonaparte revient. Eh bien, c'est un général de plus.
De retour à Paris, le jeune général ambitieux consulte l'ancien député de la Convention.
Vous avez beaucoup de pouvoir, monsieur Fouché, vous pouvez m'aider.
Il faut que vous contrôliez les portes de Paris le 18 Brumaire. Aucun envoyé du gouvernement ne doit pouvoir ni entrer ni sortir de la ville. Je veux aussi que votre censure surveille tout ce qui sera annoncé par la presse. Les gazettes ne seront autorisées à publier que ce qui sera décidé par mes amis et moi-même.
En somme, vous me demandez de favoriser un complot.
Je n'appelle pas complot le fait de débarrasser le pays d'un gouvernement de pourri et de corrompu.
Même si je n'approuve pas toujours sa politique, je fais partie de ce gouvernement.
Vous ferez partie du prochain. Si je réussis, j'aurai besoin de vous. Vous serez mon ministre de la police.
C'est très généreux de votre part, mais je suis déjà ministre de la police. Alors, si vous n'avez pas d'autres arguments...
Si, j'en ai un. Pendant la terreur, vous avez massacré des centaines de royalistes. J'ai même entendu dire que vous les avez mitraillés à bout portant en les forçant à creuser leur propre tombe. Je suis sûr qu'ils n'auront pas oublié.
Bien, c'est entendu. Je vais y réfléchir.
Non. Tout de suite, Fouché. Avec moi ou contre moi?
D'accord, avec vous. Mais si votre plan échoue?
Au lieu d'être exécuté au nom du roi pour crime de barbarie, vous serez exécuté par le directoire pour conspiration. Votre seule chance d'y échapper, c'est moi.
Une fois installé à la tête du pouvoir, le premier consul tient sa promesse. Bonaparte maintient Fouché au ministère de la police, où il déploie tous ses talents.
Le premier coup de génie, si vous voulez, de Fouché, c'est de trouver les moyens du financement de sa police. Il va se servir des vices des Français pour financer sa police.
C'est-à-dire ?
Le principal vice des Français, c'est le jeu. Et ce sont les maisons de jeu qui ont été combattues par une révolution qui était plutôt prude et très morale. Pensons à la vertu révolutionnaire de Robespierre, mais qui cependant ont continué à pulluler sur l'ensemble du territoire de la République. Et il va avoir cette idée de génie qui est de confier à une famille lyonnaise qu'il a probablement connue, qui sont les frères Perrin, le monopole de la recette des jeux, contre la redistribution de la moitié de cette recette dans une caisse noire, donc en dehors des budgets contrôlés par les assemblées, en particulier les conseils du directoire. C'est comme l'iceberg, si vous voulez. Vous avez un tiers au-dessus de l'eau, de la surface de l'eau, et les deux tiers, les comptes secrets de la police, financés par les maisons de jeu, sont sous l'eau. On ne les voit pas. Et personne ne les contrôle, sinon Fouché lui-même. Très vite, Bonaparte va mettre évidemment son grain de sel là-dedans. Mais ces fonds secrets représentent plus de 4 millions de francs, ce qui est considérable en 1805, et 3,7 millions encore en 1812. Et à quoi servent ces fonds secrets? Ils vont servir d'abord à recruter des inspecteurs de police et des ce qu'on appelle des mouchards et des moutons qui sont installés dans les prisons pour obtenir des indics, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui des indics. Ils vont servir au contrôle de l'opinion, c'est-à-dire au fond à pénétrer la presse parisienne et la presse provinciale, à acheter des journaux. Fouché va mettre des hommes à lui à la tête des journaux, par exemple le journal des hommes libres, les plus importants ou plus gros tirages, à contrôler les théâtres et également à rémunérer et à rétribuer une quantité d'affidés ou qui deviennent des affidés de la police. On parle des 40 000 mouchards de Fouché, cela relève de la légende, mais on peut penser qu'ils étaient plusieurs dizaines de milliers à jouer les indics pour le compte de la police, au point d'organiser une légende qui veut qu'on ne pouvait plus se regrouper à plus de 4 dans Paris sans que M. Fouché ne le sache.
Je suis à son service tout entier.
Son nom, Fouché, son nom.
Le renseignement, monseigneur. Tout savoir sur l'individu. Le démasquer, le déchiffrer, l'ouvrir, acheter la femme qu'il aime. Et extorquer à ses enfants ce qui va lui coûter son honneur, peut-être sa tête. Ah, quel plaisir, monsieur, que de mettre un homme en face de l'inavouable. Faut voir sa figure à mesure qu'on le découvre, épouvanté, méconnaissable. Une bougie qui coule.
Dans Le Souper, en 1992, Claude Brasseur incarnait Fouché au cinéma, face à Claude Riche, qui jouait Talleyrand. Un dîner d'ombre en juillet 1815. Une rencontre fantasmée, comme bon nombre de choses, à propos de la police sous Napoléon.
La police napoléonienne a créé un certain nombre de figures qui ont atteint la dimension d'un mythe, hein, Fouché en premier lieu.
Aurélien Lignereux.
Mais il y a également Vidocq, Desmarets.
Historien.
Donc elle a fourni un petit peu un archétype du policier type, hein, du flair, de l'esprit policier, mais elle a également dessiné la caricature, hein, des agents d'exécution, des gendarmes, réduits à une fonction, réduits à des verbalisateurs frénétiques, hein, dont une longue tradition va exploiter un petit peu les ressorts comiques. Donc on a une forme de dualisme des représentations policières issues de la période napoléonienne, entre d'un côté les mouchards et puis de l'autre côté les cognes.
Vous le connaissez. D'ailleurs, tout le monde connaît le nom de Vidocq. Sous le Premier Empire, la Restauration et la Monarchie de Juillet, tous ceux qui avaient à redouter les foudres de la justice savaient qu'ils devaient s'attacher à ne pas tomber sous le regard de celui qu'on appelait le général. Car à lui, rien n'échappait. On le faisait donner en dernier sort. Dans ces occasions, on voyait entrer chez le préfet ou chez le ministre un homme de haute stature, à la musculature impressionnante, au regard formidable, disait Balzac. C'était le général. C'était la vieille garde, c'était le chef de la sûreté. En un mot, c'était Vidocq.
Quel rôle joue Eugène-François Vidocq dans le système de police pensé par Joseph Fouché, Aurélien Lignereux?
Il s'agit en fait de huiler le système en permettant une infiltration. Hein, parce que le principe d'utiliser des gens comme Vidocq, qui ont un passé trouble, de bagnard, hein, c'est de pouvoir lutter contre le crime avec les armes du crime et même avec d'anciens criminels reconvertis, repentis, pour de l'intérieur, hein, débusquer les intrigues des criminels, comprendre leur logique et anticiper. Puisque le maître mot de la police napoléonienne, hein, c'est une forme de prévention, prévoir à l'avance, hein, les coups qui vont être joués pour les désamorcer.
Moi, c'est Courtois.
Vidocq.
L'évadé perpétuel. Faudrait être aveugle et sourd pour pas savoir qui t'es.
À dire vrai, je suis un faussaire de compagnie.
En 1967, a cappella, Gainsbourg chantait Vidocq pour l'ORTF.
À dire vrai, je suis un faussaire de compagnie. Un preneur de large, un joueur de courant d'air, un repris de justesse, un éternel évadé, un repris de justesse, un éternel évadé.
Lorsque Bonaparte s'empare du pouvoir en 1799, il a très vite compris qu'il était indispensable de s'appuyer sur Fouché et sa police pour rétablir l'ordre et protéger son régime. Mais qu'est-ce que Bonaparte a légué à la police ?
En fait, Napoléon a apporté à la fois peu et beaucoup à la police. Peu, puisque pour une fois, il n'a rien inventé en ce domaine. Le ministère de la police générale existait dès le directoire. La présence des commissaires de police dans les villes est un héritage de la Révolution. Napoléon n'a pas inventé non plus la gendarmerie, puisqu'elle remonte à la maréchaussée et que la Révolution française l'avait transformée en gendarmerie nationale. Mais d'un autre côté, cette police moderne, elle doit beaucoup à Napoléon, puisqu'il en a renforcé à la fois la centralisation, en créant une inspection générale de la gendarmerie, hein, qui va superviser le travail de l'ensemble des compagnies et des brigades de gendarmerie. Il en a renforcé également la hiérarchisation en créant des rouages intermédiaires, par exemple des commissaires généraux de police. Il en a renforcé l'étatisation, la préfecture de police, la nomination des commissaires de police qui se fait désormais par l'exécutif sur décret du chef de l'État. Et tout cela se conçoit par rapport à la codification renforcée de la société française, le code pénal bien sûr, hein, mais les codes de procédure criminelle, tout cela en renforce la professionnalisation de cette police.
Il est certain que la police napoléonienne, c'était un instrument du pouvoir de Napoléon.
Monsieur Maurice Grimaud.
Malgré toute l'admiration que nous avons pour lui, on ne peut pas oublier que Napoléon avait pris le pouvoir en France dans les conditions que vous savez, depuis le 18 Brumaire jusqu'à la proclamation de l'Empire, et qu'il avait besoin d'asseoir ce pouvoir par tous les moyens dont il pouvait disposer. Et cette police était faite essentiellement pour prévenir les complots qui furent nombreux. Donc c'était une police très offensive, enfin qui avait une mission de maintien du pouvoir impérial.
Ce qu'on entend dans ce que vous racontez, Emmanuel de Barresquel, qui peut faire écho aussi à ce qu'on dit de Fouché, qui serait l'inventeur de la police moderne, c'est l'obsession de la surveillance. C'est-à-dire qu'on sent que Fouché veut surveiller, savoir tout sur tout le monde. C'est peut-être la matrice finalement de sa police à lui à cette époque-là.
Fouché, au fond, c'est l'homme d'un paradoxe. J'en citerai deux. Le premier, c'est que, et il l'a très très bien compris, plus les hommes d'État sont soumis à l'opinion publique, plus ils vont inventer les stratégies de l'opacité et du secret. Donc, au fond, l'idéal de Fouché, c'est un pouvoir aussi opaque que possible, aussi secret que possible, et une société aussi transparente que possible, et aussi contrôlée que possible. Dans ce sens, Fouché invente la prévention. Et il va dissocier dans les multiples circulaires qu'il va envoyer à Bonaparte après la prise de pouvoir de Bonaparte, il dissocie au fond la violence terroriste de la police. Il a cette phrase dans l'une de ses circulaires, « La police doit se faire sentir partout et ne se laisser voir nulle part ». Ça, c'est vraiment l'axiome de base de Fouché. Et pour faire en sorte que cette société soit aussi transparente que possible, Fouché va inventer des instruments. Le premier instrument qu'il invente, c'est ce qu'on appelle les tableaux de statistiques et de morale. C'est-à-dire qu'il va demander, alors même qu'il ne contrôle pas directement les préfets, qui sont une création aussi de Bonaparte au tout début du consulat, il va demander au préfet de lui faire remonter mensuellement des tableaux qui lui donnent absolument tous les éléments dont il a besoin sur leur département, c'est-à-dire le nombre des prisonniers, les registres des spectacles, la presse, les vagabonds, le nombre des vagabonds, les déserteurs, la richesse des familles. On appellera ça d'ailleurs la conscription des héritières. C'est-à-dire que c'est grâce au tableau de Fouché qui donne les 10 premières fortunes de chaque département du consulat et de l'Empire que Napoléon va pouvoir procéder à cette fusion entre les intérêts de la Révolution et les intérêts de l'Ancien Régime, et marier également ses maréchaux à de riches héritières indiquées précisément par Fouché dans ses fameux tableaux de statistiques et de morale. Alors, il a un deuxième instrument de contrôle, c'est que c'est Fouché qui met les passeports à disposition des commissaires et des commissaires généraux de police qui sont institués dans toutes les grandes villes de France dès 1800, qui les généralise et qui le rend inviolable. C'est-à-dire qu'il invente une forme, grâce à un papier qu'on appelle un papier filigrané, il invente une forme de passeport qui ne peut être copié et falsifié. De même qu'il va lutter aussi contre les faux-monnayeurs de façon très active. Donc, il crée les instruments du contrôle de la société. Et il considère d'ailleurs qu'il est de son devoir de contrôler la société contre elle-même, à travers précisément la mise au secret de sa part la plus turbulente. Fouché est quand même l'homme qui, par vagues successives, des jacobins aux royalistes, envoie des centaines de personnes à la tour du Temple, avant que celle-ci ne soit démolie en 1809-1810. Donc, cette police, on peut dire, dans le sens de la philosophie qu'envisage Fouché, que c'est une police moderne, et en même temps, elle a quelque chose d'un peu balzacienne. Elle reste encore, je dirais, artisanale par rapport à ce qu'on peut connaître aujourd'hui. C'est l'embryon. Dans sa philosophie, c'est l'embryon de la police moderne, à travers cette idée de la surveillance, du contrôle, de la prévention. Ça, c'est certain.
Et le 26 juillet, l'empereur est à Saint-Cloud. Il travaille, il ordonne, il décrète. Il fixe à 3 530 000 francs les dépenses secrètes de la police et rien ne lui échappe et tout lui passe par les mains.
En effet, rien ne devait échapper au premier consul, une obsession. Bonaparte voulait tout savoir sur tout, pour neutraliser les royalistes sur sa droite et étouffer les jacobins sur sa gauche. Et Joseph Fouché s'est révélé très précieux en collecte d'informations, notamment pour repérer les individus capables de crimes avant même qu'ils ne soient coupables de crimes.
T'es pas d'ici, toi ? Je suis un marchand ambulant, je suis sur la route, plus qu'ailleurs. Ton nom, tes papiers.
Ce qui frappe lorsqu'on étudie les archives napoléoniennes, c'est la profusion de listes. Et les listes policières sont des listes parmi d'autres. La police a ses propres fichiers. Et parmi toutes les fiches qui sont créées, il y a, dans certains départements troublés, je pense par exemple au département annexé romain ou à la Corse, des fiches qui par avance identifient des individus dans le profil, en rupture de banc, les mauvaises mœurs, les dettes, etc., sont susceptibles de passer à l'acte, de commettre des crimes. Et ces individus sont identifiés, ce qui permet d'assurer l'efficacité des rafles et éventuellement des déportations, puisque ce type d'individu qui est sanctionné sans avoir commis de crime et donc sans pouvoir être jugé, eh bien, sont mis hors d'état de nuire, souvent par des mesures qu'on appelle des mesures de haute police. Ces mesures de haute police, ce sont des déplacements. L'individu est arraché à son environnement pathogène, il est coupé de ses réseaux et il se trouve surveillé dans une commune loin de celle qui lui est familière pour lui ainsi lui couper les ailes.
Réseau bien organisé, c'est l'irrigation du pays. L'information qui circule, le doute qui devient certitude, et le suspect coupable.
Il n'y a point d'innocence dans vous ?
Non, il n'y en a point, non.
Tous coupables ?
Ah, il y a un coupable. Ça, c'est drôle, ça me rappelle l'histoire. Oui, oh, petite anecdote comme ça. Un jour d'hiver, 94, place de la Concorde, au pied de la guillotine, on exécutait ce jour-là quelqu'un que je connaissais très bien, enfin bref. Et alors celui-ci, en arrivant sur l'échafaud, se met à hurler : arrêtez, je ne suis pas coupable. Et Sanson le bourreau, vous savez ce qu'il lui a répondu ? En le basculant sur la planche : vous n'êtes pas coupable, on va voir ça tout de suite. Et crac ! Et c'est vrai.
Oui.
Ça vous fait pas rire.
Je ne m'attendais pas à cette chute-là.
L'architecte de la police napoléonienne, ce fut donc Joseph Fouché. Mais un homme seul ne construit rien. L'Empire fut un immense territoire, 130 départements qu'il fallait surveiller et régir. Le pouvoir central a donc dépêché aux quatre coins de la grande nation des fonctionnaires, policiers et gendarmes, afin d'imposer la loi française dans les contrées passées sous l'autorité de la France. Alors, qui furent les policiers de l'Empire ?
Eh bien, c'est ce qui est passionnant, c'est qu'on découvre en fait qu'il y a toute une série de visages. Vous avez à la fois certains hauts policiers qui sont des mini-fouchés, des policiers dans l'âme, qui se complaisent dans les intrigues. Vous avez tout un personnel de base qui sont de braves soldats recyclés dans la gendarmerie, recasés comme inspecteurs de police. Et puis vous avez également des officiers un petit peu à la fois curieux et caustiques, à la fois lucides et enthousiastes. Un petit peu des Stendhal, qui sont des observateurs très éveillés, très acerbes, de la façon dont l'Empire se développe. Et tous ces personnages unissent leurs talents différents pour mieux contrôler cet Empire et d'abord mieux le faire connaître à Paris.
Est-ce qu'on traque les rébellions, les complotistes, les contre-révolutionnaires, les gens qui peuvent menacer l'Empire de l'intérieur ?
On les traque et on les suscite à la fois, puisqu'il faut bien voir que l'imposition du nouveau régime français bouscule les habitudes établies. C'est-à-dire que des brigades s'installent dont des arrière-pays montagneux, traditionnellement qui vivaient un petit peu sur soi, coupés des principautés centrales. Donc tout cela bouscule les habitudes, perturbe les illégalismes traditionnels, le braconnage, etc. Et donc la présence de ces gendarmes suscite des résistances, des résistances qui sont d'ordre familial, villageoise, communautaire, donc créent des rébellions. C'est une dimension importante, mais comme disait Michel Foucault, la résistance au pouvoir finalement renforce le pouvoir dans la mesure où ces réactions de rejet de la présence des gendarmes vont susciter des retours en force qui vont permettre, par la répression, de renforcer la présence du pouvoir.
«
Monsieur Fouché.
Tiens. Voilà votre compère Fouché qui veut reconquérir ses galants. Vous semblez contrarié, monsieur Fouché.
L'air est plein de poignards autour de vous.
Je constate que votre vue s'améliore.
Le général Pichegru se cache rue des Petits Champs. Il a rencontré cette nuit le général Moreau rue Montmartre. Quant à Cadoudal, insaisissable, je sais qu'il prépare une embuscade pour vous poignarder lui-même, a-t-il dit, demain sur la route de Malmaison. Et comme je ne suis plus ministre de la police, j'ai prévenu mon remplaçant.
Monsieur Fouché, vous allez travailler avec Monsieur Réal jusqu'au jour où je vous redonnerai votre ministère. Car vous êtes pour moi, malgré tout, l'homme le mieux informé de France.
Quel rapport entretient Bonaparte avec ce Joseph Fouché? Est-ce qu'il a peur de Fouché?
C'est la grande question.
Oui, quel rapport ont-ils tous les deux?
Fouché le dit dans une de ses confidences à Bourrienne, qui a été l'un des premiers secrétaires de Bonaparte au tout début du consulat, qu'il n'a jamais aimé Bonaparte et qu'il s'en est toujours méfié. Je pense que si quelque chose les rapproche, c'est ce génie de la méfiance et du soupçon qu'ils ont tous les deux et qu'ils vont très vite avoir l'un vis-à-vis de l'autre. C'est très rapidement Bonaparte qui, par ailleurs, va reconnaître les mérites de Fouché, qui d'abord garde Fouché au ministère de la police après avoir réussi son coup d'État de novembre 1799, car il le sait précieux et Fouché lui sert de caution. Si vous voulez, il sait que Fouché, homme de sang, ancien terroriste, ancien révolutionnaire, est le mieux apte à contrôler tous ces milieux jacobins issus de la Révolution française dont Fouché va se servir tout en les domestiquant dans un certain sens. Donc Fouché est la caution de Bonaparte du côté de l'aile gauche, de la France de gauche, entre guillemets, hein, si on peut dire ça comme ça. Et puis par ailleurs, Bonaparte se rend compte très vite de l'extrême efficacité de son ministre, qui commence très vite, dès 1800, à démanteler des bureaux d'agences royalistes, de contre-espionnage royaliste montés par le prétendant, le futur Louis XVIII, et par son frère cadet, le comte d'Artois, qui est en Angleterre.
Tiens, on prend la rue Saint-Nicaise.
Oui, Fouché tient par sécurité à ce qu'on emprunte à chaque fois un itinéraire différent.
Même la nuit de Noël, c'est une nuit sacrée. D'ailleurs, des ennemis, tu en as de moins en moins. Même la presse est unanime à chanter tes louanges.
Et puis Fouché est celui qui démonte l'affaire de l'attentat de la rue Saint-Nicaise en décembre 1800, alors même que tout le monde pense qu'il est d'origine jacobine. C'est lui qui met la main sur les réseaux royalistes, anglo-royalistes, qui sont à l'origine de cette tentative d'assassinat de Bonaparte, qui a failli d'ailleurs le tuer. Ces barils de poudre transportés sur une charrette à l'angle de la rue Saint-Nicaise, alors que le premier consul quitte les Tuileries pour se rendre à l'opéra de la rue de Richelieu, et que, pour des raisons très circonstancielles, les barils explosent juste après le passage de la voiture consulaire. Ce qui fait que le premier consul en réchappe. Mais c'est évidemment une affaire d'État, c'est pas le premier ni le dernier complot, et ça explique en grande partie pourquoi Bonaparte a besoin de Fouché.
Ce sont les Jacobins qui ont voulu m'assassiner. Ce sont des scélérats couverts de boue.
J'ai de bonnes raisons de croire que les Jacobins ne sont pour rien dans cette affaire.
Vous défendez vos amis d'autrefois, Fouché.
C'est l'œuvre des royalistes, et je vous en apporterai la preuve sous 8 jours.
Mais en même temps, Bonaparte se méfie de Fouché et va très vite avoir ses propres informateurs et sa propre police, à travers son aide-de-camp Savary, qui va d'ailleurs prendre la suite de Fouché au ministère de la police lorsque Fouché sera disgracié en 1810, à travers Duroc, celui qui deviendra son grand maître du palais, à travers le directeur des postes consulaires puis impérial, qui est le comte de Lavalette, car la grande ambition de Fouché, ça a été de mettre la main sur tous les services administratifs du consulat. Évidemment, les services de l'intérieur, les préfets, on en a parlé tout à l'heure, mais également la gendarmerie, dont il pense qu'elle l'est, elle ne peut être que le bras armé de la police, et évidemment les postes. Car si Fouché va avoir son cabinet noir, les services officiels de la poste lui sont extrêmement utiles, avec ce système qui consiste à intercepter les lettres, à les décacheter, à les recopier et à les recacheter. Donc voilà, Fouché, c'est les tentacules et c'est la pieuvre. C'est l'homme qui cherche à obtenir le plus de pouvoir possible, qui montre remarquablement son pouvoir policier, mais qui veut faire en sorte que ce pouvoir policier s'étende sur toutes les autres directions de l'administration consulaire puis impériale. Et ça, Bonaparte s'en méfie éminemment, jusqu'à cette fameuse phrase qu'on prête à Napoléon « Que voulez-vous faire d'un homme qui un jour fouille dans mon portefeuille et l'autre jour dans mon lit ?»
Ça résume assez bien leur relation.
Et puis, il y a la façon dont Fouché... Fouché est quelqu'un, il est breton, il a un père capitaine de navire qui est seul maître à bord, et il a toujours voulu être seul maître à bord. Il a quelque chose de réfractaire, il a une forme d'indépendance d'esprit et d'action qu'il veut à tout prix préserver. Et alors même que Bonaparte ne l'aime pas, ne serait-ce que parce qu'il a été un ancien terroriste, c'est un homme de sang, et Bonaparte n'aime pas cette part de la Révolution française, et il y a ce fameux dialogue que les deux hommes auraient eu alors que Bonaparte lui reprochait pour la énième fois d'avoir voté la mort du roi, et Fouché lui répond du tac au tac « Sire, c'est même le premier service que j'ai pu rendre à votre majesté. » Et en effet, si Louis XVI n'avait pas été exécuté le 21 janvier 1793, probablement que Bonaparte n'aurait jamais existé.
Face au pouvoir tentaculaire de Fouché, la méfiance de Bonaparte s'est accrue, au point qu'il a fallu mettre en place des solutions pour apaiser les craintes de Napoléon.
Eh bien, Napoléon a construit un échafaudage policier assez compliqué, en fait, avec tout un jeu de contre-pouvoirs, de contreparties. Il a voulu susciter l'émulation, la compétition d'un système policier complexe en mettant ces différentes parties en concurrence.
À la tête de la gendarmerie, il y a, je crois, le maréchal Moncey, maréchal d'Empire Moncey. Qui était-il, ce maréchal Moncey ?
Monsieur Fournier, vous avez sans doute quelques détails à nous donner sur la vie de ce grand maréchal d'Empire qui a été Moncey.
En 1801, Napoléon en fit l'inspecteur général de la gendarmerie et il réorganisa la gendarmerie complètement. Il lui imprima d'ailleurs un esprit et toutes les vertus qu'elle a su conserver à travers le temps.
Il semble que Napoléon ait joué sur l'antagonisme entre Fouché et Moncey, comme si Moncey devenait un contre-pouvoir à Fouché, parce que finalement Bonaparte se méfiait de Fouché. Et Moncey a pu être pratique dans cette lutte de pouvoir entre eux.
Oui, oui, effectivement, Napoléon est très fin pour connaître un petit peu les hommes dont il s'entoure, hein, utiliser leurs appétits de pouvoir, leurs faiblesses, etc. Il sait tout le contentieux personnel opposant Fouché et Moncey qui se sont connus préalablement à Lyon. Et donc, il exploite un petit peu cette dimension pour s'assurer que Moncey sera un surveillant sourcilleux des agissements de la police générale.
On a le sentiment, Aurélien Lignereux, que cette dualité entre la police et la gendarmerie s'est poursuivie tout au long des deux siècles qui ont suivi. Elles sont restées en concurrence jusqu'à aujourd'hui, cette police et cette gendarmerie. Est-ce que c'est un reliquat justement du consulat et de l'Empire aujourd'hui encore ?
Oui et non. Donc il y a à la fois une dimension d'équilibre des pouvoirs, la volonté finalement de ne pas créer un outil policier trop puissant au sens où il ne formerait qu'un bloc et il pourrait manipuler le pouvoir politique. Donc voilà, il y a cette tentation de le diviser pour le service du prince, de Napoléon, mais ensuite, cette dimension-là va acquérir une vertu républicaine.
La nuit et le moment ensuite, l'invité Jean-Jacques Glézal pour son livre qui sort cette semaine, « Le désordre policier au PUF ». À propos de cette guerre des polices, on peut opposer, comme on le fait souvent, la police à la gendarmerie, qui est donc l'héritière de la maréchaussée, qui est donc une police militaire. Oui. Vous écrivez par exemple que François Mitterrand a semblé, pendant au moins une partie de son septennat, jouer la gendarmerie contre la police. À votre avis, pourquoi l'a-t-il fait et quels en sont les signes ?
Il me semble qu'au début, lorsqu'elle est arrivée au pouvoir, la gauche a eu peur un peu de la police. Je crois que tout pouvoir a peur un petit peu de la police. La police, elle n'est pas comme l'armée aux ordres. Autrement dit, la police, elle est remuante.
Fouché aussi fut sans doute remuant. Mais qu'est-ce que ça veut dire, remuant ? Incontrôlable ? Disons, pas tout à fait aux ordres. Et par ailleurs, l'instinct de survie politique chez Fouché fut très aiguisé, surtout à la toute fin du régime. Cette fin du régime débute dès 1814, lorsque Bonaparte fut contraint d'abdiquer une première fois après avoir été défait par les monarchies européennes. Napoléon fut exilé sur l'île d'Elbe, entre la Corse et l'Italie.
Une nuit, entre le 25 et le 26 février,
Chateaubriand nous raconte la suite.
Au sortir d'un bal dont la princesse Borghese faisait les honneurs, il s'évade avec la victoire, si longtemps sa complice et sa camarade. Il franchit une mer couverte de nos flottes, rencontre deux frégates, un vaisseau de 74 et le brick de guerre, le Zéphyr, qui l'accoste et l'interroge. Il répond lui-même aux questions du capitaine. La mer et les flots le saluent et il poursuit sa course. Le Tillac de l'Inconstant, son petit navire, lui sert de promenoir et de cabinet. Il dicte au milieu des vents et fait copier sur cette table agitée trois proclamations à l'armée et à la France. Le 1er mars, à 3 heures du matin, il aborde la côte de France entre Cannes et Antibes dans le golfe Juan. Il descend, parcourt la rive, cueille des violettes et bivouaque dans une plantation d'oliviers. La population stupéfaite se retire. Il manque Antibes et se jette dans les montagnes de Grasse, traverse Cernon, Barème, Digne et Gap, assisteront 20 hommes le peuvent arrêter et il ne trouve personne. Il s'avance sans obstacle parmi ses habitants qui, quelques mois auparavant, avaient voulu l'égorger.
Évadé, Napoléon tente, au printemps 1815, de reconquérir le trône. Mais quelle fut la position de Fouché ?
Fouché est de ceux qui veulent rester au cœur du pouvoir, mais qui en même temps savent, lorsque Napoléon rentre de l'île d'Elbe, les fameux 100 jours, hein, le vol de l'aigle, l'aigle avec les couleurs nationales flottera de clocher en clocher jusqu'au tour de Notre-Dame, il est probablement le premier à savoir que ce pouvoir est intenable. Il le dit à Paquier, qui est son préfet de police, Napoléon ne tiendra pas 3 mois. Et c'est une prédiction qui s'est avérée juste, puisque Napoléon tombe à Waterloo, alors qu'il rentre à Paris le 20 mars 1815. Il tombe à Waterloo le 18 juin 1815. Et Fouché est probablement à l'origine et la cheville ouvrière de son abdication finale, quelques jours plus tard, le 21 juin 1815. Il est à la manœuvre du côté de la Chambre des députés qu'il contrôle, et également du côté de Bonaparte. Au fond, il est quasiment celui qui tient la plume de l'abdication, de la dernière abdication de Napoléon, qui enverra Napoléon via Rochefort à Sainte-Hélène, prisonnier de l'Europe entière, pas seulement des Anglais, à partir de la fin de l'année 1815. Fouché joue un double jeu parce qu'il sait que cette tentative-là est irréalisable, que l'Europe entière va tomber sur le dos de Napoléon, et en effet la coalition se reforme immédiatement, que Napoléon va retrouver dans les mornes plaines de Waterloo en juin 1815, et parce que il est convaincu que Napoléon, pour peu qu'il ait gagné ou qu'il gagne quelques batailles, retournera naturellement à l'Empire autoritaire, ce qui n'est pas forcément l'idéal du point de vue de sa conception de l'agencement des pouvoirs d'État. Fouché a toujours été un partisan d'une certaine liberté de la presse. Il pense qu'elle est absolument nécessaire, je dirais, à la respiration d'une société. Autant il veut que cette société soit aussi transparente que possible, autant il ne la veut pas morte. Hein. Fouché, c'est pas Beria.
Qui était ce Beria?
Beria. Les peuples de notre pays peuvent être certains que le Parti communiste et le gouvernement de l'Union soviétique ne manageront ni leurs forces, ni leurs vies pour maintenir l'unité d'acier des rangs du parti et de la direction.
Beria, le chien de garde de Staline, directeur du NKVD, responsable de 20 millions de morts dans les goulags. Certes, Fouché ne fut pas Beria, mais il est évident que Fouché a posé les bases d'un État policier armé des outils de contrôle.
Ce qui me plaît d'abord, c'est le pouvoir.
Beria et Fouché partageaient aussi un même appétit.
Si ces gens-là me refusent le pouvoir, je me tournerai vers d'autres qui me le donneront.
Pour terminer, Emmanuel Barresquiel, Fouché meurt à Trieste en 1820. On raconte qu'il aurait brûlé ses dossiers dans la cheminée avant de mourir, ce qui fait qu'aujourd'hui encore, nous échappent certaines informations.
Talleyrand a brûlé certains papiers compromettants, en amateur distingué qu'il était. Fouché l'a fait de façon systématique, en très grand policier qu'il était. Il a inspiré toute la littérature du 19e siècle, hein. Il a inspiré Balzac. Corentin, le personnage principal des Chouans de Balzac, c'est une sorte de duplicata littéraire de Fouché. L'inspecteur Javert des Misérables, c'est Fouché.
Si d'aventure votre Excellence n'était pas rappelée aux affaires, elle pourrait s'adonner à une très féconde activité. Elle pourrait écrire ses mémoires.
C'est une idée. À la réflexion, je ne crois pas que je vais écrire mes mémoires. Ou si je les écris, je les brûlerai.
En conclusion, avec Fouché, Napoléon a jeté les bases de la police moderne, voire de l'État policier. Néanmoins, quand on se penche sur la police napoléonienne, il faut toujours avoir en tête le contexte politique. D'un côté, Bonaparte redoutait le retour du désordre révolutionnaire. De l'autre, il a dû affronter les ennemis royalistes des acquis de la Révolution. Une ligne de crête difficile et périlleuse, même si personne ne peut nier qu'à travers sa police, le régime impérial a fini par dériver jusqu'à devenir précurseur d'une certaine tyrannie.
Napoléon, l'homme qui ne meurt jamais.
Une série réalisée par Violaine Ballet. Assistance éditoriale Estelle Gap. Documentation sonore Thierry Dupin, Romain Couturier, Hervé Evano. Avec la participation de Nicolas Lormeau de la Comédie Française. Prochain épisode, la question de l'esclavage ou la mémoire coloniale. Napoléon, l'homme qui ne meurt jamais, est un podcast original de France Inter.